RMC.
Effectivement, si vous arrivez cric-crac, ben vous avez plus de chances de louper votre avion.
Ma volonté, il est de quitter le club. Et peut-être que jamais je vais expliquer la raison pour laquelle je veux lâcher le club.
Bonjour à tous. Je suis très content de revenir à Paris. Ici, c'est Paris.
After Paris.
Gilbert Bribois.
Le podcast After Paris, toutes les semaines, évidemment, est là pour débattre de l'actu du PSG et surtout aborder des thématiques qu'on n'a pas forcément eu le temps de développer dans l'after classique en direct. On est sur une semaine de Coupe d'Europe. Donc hier, hier après le match de la Juve, puisque là, nous enregistrons ce jeudi, on a beaucoup parlé du match, des performances individuelles. Et ce podcast va être l'occasion de prendre un petit peu de hauteur et de se poser une question très simple. Le PSG qu'on voit là, depuis le début de la saison, peut-il objectivement gagner la Ligue des Champions? On va essayer de répondre avec Coach Courbis qui est là. Roland, bonjour.
Bonjour les amis et bonjour à tous.
Et avec Fabrice Hawkins qui suit le PSG au quotidien. Salut Fabrice.
Salut Gilbert, salut coach.
Ah oui, il y a un paradoxe quand même parce que on a une semaine de Coupe d'Europe assez étonnante. Mardi, l'OM fait une bonne première mi-temps puis ridicule en deuxième. Et finalement dans l'after, on n'est pas si négatif que ça avec l'OM parce qu'on se dit quand même il y a la première mi-temps. Bon. Et puis hier soir, le PSG gagne à Turin, ce qu'un club français n'avait jamais fait. Donc, c'est quand même un truc. Voilà, tu gagnes à la Juve, c'est pas anodin. Et en fait, l'after a été globalement négatif avec le PSG. Bon, déjà.
Ouais, d'accord.
Vous voyez, tu vois ce que je veux dire, Roland, c'est, des fois, les résultats ne sont pas forcément à mettre en parallèle avec le contenu.
La Juve d'hier, c'est une Juve surprenante. Mais bon, quand tu vois la liste des joueurs absents, tu prends peur. Et en ce qui concerne le match de la veille, bon, mais évidemment, la tension se polarise sur la dernière minute. Mais revenons un petit peu avant. C'est les deux matchs contre Francfort où tu ne fais même pas un match nul sur les deux matchs que tu es éliminé. Ce n'est pas avec ce dernier but. On aurait dû nous le dire, on ne le savait pas, etc., etc.
D'ailleurs, hier soir, on a nouveau eu droit et on ne le savait pas.
Mais oui, non.
Et il ne le savait pas.
Et en ce qui concerne le Paris Saint-Germain, on peut s'amuser aussi avec Neymar en disant si justement il a pris ce carton jaune pour ne pas aller à Turin. Revenir à zéro pour les huitièmes.
Et jouer un match de moins avant la Coupe du Monde.
Et jouer un match de moins avec la Coupe du Monde. Et c'est sûr que si c'est ça son calcul, ben avec Neymar, on peut penser qu'il aurait pu y avoir un but de plus. Je suis surpris aussi que dans les analyses, au lieu de parler d'un but de plus que l'adversaire, on a le réflexe de dire, ou alors j'ai mal compris, il aurait fallu prendre un but de moins.
Parce que Paris en prend aussi systématiquement. C'est dans les grands clubs, et ouais. Le Paris Saint-Germain en est un aujourd'hui. Tu ne peux pas prendre comme ça à chaque match. Quand il démarre un match, on a l'impression que c'est sûr et certain, le Paris Saint-Germain va prendre un but, on sent une fébrilité défensive. Oui. Et c'est aussi pour ça que le coach Galtier a dit qu'on aurait dû prendre un but de moins. Et c'est vrai qu'avec un but de moins, tu finissais premier.
D'accord, mais quand tu as la chance, en tant qu'entraîneur, d'avoir Mbappé, Messi et Neymar, tu ne penses pas que tu dois plaider cette évidence qui est le football, c'est un beau jeu, c'est un truc magnifique et c'est vrai qu'il vaut mieux réfléchir pour marquer un but de plus que l'adversaire.
Mais je suis d'accord avec toi, Roland.
Les trois monstres devant, tu peux te dire, tiens, je veux bien avec ces trois joueurs prendre un but à tous les matchs.
Mais ils font le boulot. Neymar, Messi, Kylian Mbappé, ils font le boulot. S'il y en a un des trois qui était un petit peu moins bon ou si les trois globalement ne donnaient pas satisfaction, on pourrait se faire le constat de il faudrait effectivement qu'il y ait un petit peu plus de buts et on pourrait marquer. Mais là, ils sont au niveau. Donc, automatiquement, on regarde derrière et on se dit si derrière c'était aussi bon que devant.
Non, mais toi,
ah bah oui.
Tu dois te supporter un petit peu chauvin et
pas du tout.
C'est pas un défaut. Et puisqu'en plus de ça, je suis bien placé pour le dire. Je suis chauvin, je suis de mauvaise foi, je suis mauvais perdant. Donc, si tu veux, tout ça, je connais. Donc, si j'ai bien compris, ton analyse, c'est d'avoir dans un effectif. Mbappé, Messi.
T'es têtu aussi, t'as oublié de dire ça.
Hein?
T'es têtu aussi.
Ah oui, aussi, oui. Donc Mbappé, Messi et Neymar. Et il faut aussi pas prendre de but. Oui, d'accord.
En prendre moins. Juste en prendre moins.
Allez, un de moins. Oui.
Quelques clean sheets de temps en temps.
Allez, ok. On est d'accord.
Bon, alors, après ce préambule, les gars, est-ce que on doit faire aujourd'hui, on peut faire aujourd'hui du PSG un vrai candidat à la victoire finale? au vu là de la phase de poule de la Ligue des Champions. Toi, tu répondrais quoi, Fabrice ?
Quand on a Neymar, Kylian Mbappé et Messi dans son équipe, forcément qu'on aspire à gagner le titre. Et
bon, on aspire, mais ce qu'on voit nous, est-ce que ça nous donne des assurances ?
Bah, sur un bon jour, l'idée c'est toujours de marquer un but, et coach le dit très bien, de marquer un but que l'adversaire. Donc dans un bon jour, le Paris Saint-Germain peut battre n'importe qui en marquant un but de plus. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir ? Est-ce qu'ils vont le faire ? On voit bien aussi que les concurrents, et si on parle notamment des équipes que le Paris Saint-Germain peut tirer, c'est-à-dire le Bayern Munich, Manchester City, Chelsea, sont des équipes qui sont quand même bien armées défensivement et qui ont aussi des attaquants qui peuvent faire la différence. Donc est-ce que le Paris Saint-Germain va réussir sur deux matchs ? Parce que là, on n'est plus sur simplement un match. Est-ce que sur une confrontation directe, aller-retour, est-ce que le Paris Saint-Germain va pouvoir faire la différence ? Ça, j'en suis quand même pas très convaincu.
Mais écoute,
donc c'est oui et non, en fait, ta réponse.
Ça va dépendre de l'état de forme. Ça va dépendre de l'état de forme de ceux de devant, notamment, et de la capacité du Paris Saint-Germain à corriger ce qui n'a pas été sur ses premiers matchs de groupe.
Là, c'est le podcast after. Hein. Si tu dis vous, tu dis non. Ouais, tu dis pas oui, mais non.
On aura l'occasion.
En l'état actuel, non, j'espère.
Ah, voilà.
On aura l'occasion, les amis, de pouvoir en refaire des podcasts après la Coupe du Monde. Après le 31 décembre, il y aura une nouvelle année. On va avoir un tirage au sort lundi. Il y a des tas et des tas de choses. Puisque si, par exemple, on parle de côté défensif, on va quand même, de temps en temps, réfléchir qu'il y a eu un choix à l'intersaison qui est un choix pas évident, délicat.
Où... Le changement de coach, tu veux dire ?
Non.
Le système,
la gestion des gardiens. Ah. C'est-à-dire que on prend la responsabilité à l'intersaison de mettre numéro 1 Donnarumma, numéro 2 Navas. Je suis désolé. Sur le plan économique, par rapport à certains accords qu'il y a pu y avoir, et avec l'âge de Donnarumma qui a un contrat de 4 ou 5 ans, eh bien on peut le comprendre, mais dans le présent, te plains pas de prendre des buts quand tu choisis le gardien qui est un peu moins bon que l'autre gardien. Et là où j'ai du mal à comprendre la gestion, il n'y a pas que ça que j'ai du mal à comprendre, mais c'est certainement aussi des choses qui m'échappent parce que je ne suis pas au courant de tout. Navas, aujourd'hui, est meilleur que Donnarumma. Ok ? Alors après, que ce soit, que ce soit légèrement ou pas légèrement, écoute. Mais en plus de ça, que tu distribues Donnarumma numéro 1 et Navas numéro 2, il y a une autre explication que j'aimerais savoir, c'est que Navas, en étant numéro 2, quand tu es numéro 2, tu es puni de jouer tous les matchs. C'est-à-dire que Navas, qui est le numéro 2, c'est-à-dire celui qui doit rentrer dans le cas que le gardien Donnarumma se blesse, il va rentrer congelé. On dira qu'il est frais. Non,
il est tellement congelé qu'il est blessé, là.
Blessé ? Ah, pourquoi ? Ça peut pas, il n'a pas pu faire une Neymar, lui aussi ? Il n'en a pas ras-le-bol d'être sur le banc, de regarder et d'être transformé en supporter. Donc, il n'a pas la Coupe du Monde, lui, avec son pays. Et... Comment, non ?
Si,
avec le Costa Rica.
Mais enfin, donc, tu crois que ce n'est pas un honneur pour lui d'aller... Et tu crois qu'il est heureux d'aller sur le banc de la Juve à 15 jours de la Coupe du Monde ? Donc, pour moi, de temps en temps... Faire jouer Donnarumma, pas pour lui faire plaisir, pour l'entretenir, même par sympathie, par correction, tu dois faire, je te dis pas de le faire jouer à la Juve, mais fais-le jouer à domicile contre 3. Qu'est-ce que c'est le problème ?
Ah, l'idée cette saison.
Et après, tu as Donnarumma qui va dans son pays pour rencontrer la Juve. Donc, et si par exemple Donnarumma se blesse et qui rentre Navas et que Navas n'est pas très bon parce qu'il manquera de rythme, là j'attends avec impatience de pouvoir rappeler que nous sommes surpris mais désagréablement.
Alors t'es parti sur le gardien là, mais en fait là t'as pas répondu à la question globale.
Mais ouais, mais ça fait partie aussi de la solidité, Gilbert.
le gardien. Après on peut parler de défense centrale, tu veux
gagner la Champions League et tu choisis le gardien qui est moins bon que l'autre.
Donc de fait ta réponse est non. En l'état, ils ne peuvent pas la gagner.
Non, je réponds oui, tu peux la gagner quand même. Et dans ma phrase, je souligne quand même.
Bon, d'accord. Alors, attends, parce que là, ok, alors, vous avez répondu. Maintenant, rentrons dans les détails. On passe le gardien, on l'a fait.
Alors, je ne vais pas te faire une leçon de français. Je peux te dire quand même ou malgré la mauvaise gestion des gardiens. Je peux te dire ça aussi, malgré, tu soulignes.
Le système, là, on est, donc maintenant, on est reparti sur une défense à 4, ce qui semble, a priori, être le système qui va rester.
A priori, bien sûr.
Pas sûr. Il y a
peut-être tu dis pas sûr ?
Non, parce que Kimpembe n'est pas là. Et quand il y aura Kimpembe, Ramos et Marquinhos et l'arrière centrale qui va arriver au mois de décembre, on aura encore des podcasts et on reparlera de l'organisation défensive de Paris Saint-Germain.
Là, l'idée, même si Kimpembe était là pour ce match, l'idée, ce qui a été travaillé pendant la semaine à l'entraînement, c'était quand même de rester à 4 derrière. Donc, mais après, ce que coach dit, c'est vrai aussi. Hein, un défenseur était recherché, c'est toujours dans les tuyaux. S'il arrive, sachant qu'il y a déjà Kimpembe, Marquinhos et Sergio Ramos, la question va
se
poser.
Mais Roland, t'entretiens le flou. Une équipe qui gagne la Ligue des Champions, en général, on sait comment elle joue. Enfin, il y a une base, il y a une assise. Tu vois, tu te dis, tiens, voilà.
Oui, mon petit Gilbert, mais autant que je te comprends.
Là, du coup, on sait plus alors.
Que je peux te rajouter qu'une équipe pourrait être un peu plus diabolique pour les adversaires qui devront rencontrer. C'est pas interdit de pouvoir avoir deux organisations, une organisation avec trois arrières centraux et une organisation avec deux arrières centraux.
Galtier change pas encore de match.
Et on parle toujours dans le débat l'un ou l'autre. Mais pourquoi on parle pas de l'un et l'autre?
Le Paris Saint-Germain, moi ce qui me frappe, et c'est vrai que malgré les difficultés qu'a le Paris Saint-Germain derrière, on peut le dire, le Real Madrid a gagné la Ligue des Champions la saison passée, d'ailleurs en jouant que des gros à partir des huitièmes de finale, mais aussi avec un certain déséquilibre. C'est-à-dire, on l'a dit constamment, c'était pas la meilleure défense centrale, même si Alaba a fait des bons matchs, même si Militao s'est montré souvent au niveau, c'était pas la meilleure défense qu'on ait vue du Real Madrid, et pourtant ils ont quand même réussi à gagner la Ligue des Champions. Donc à un moment donné, si les trois de devant, ou Messi, ou Neymar, ou Kylian Mbappé, il y en a un qui surnage, ou qui sont vraiment au-dessus du lot, ou dans une forme exceptionnelle, on peut imaginer le Paris Saint-Germain aller loin.
Je te suis, et je suis d'accord avec tout ce que tu dis, c'est très intéressant, mais si on vient de parler d'un poste, qui est un poste de gardien de but, avec une gestion délicate à l'intersaison du Paris Saint-Germain, et qu'on me parle du Real Madrid, je mets Courtois dans les buts aussi forts que Benzema en attaque. La saison dernière, si tu veux copier sur le Real Madrid, ben déjà dans ton effectif, choisis pour le présent. Après, le futur, c'est autre chose. Mais on n'est pas en train de travailler pour gagner la Champions League du côté de Paris Saint-Germain dans 3 ou 4 ans. On espère la gagner dans 6 mois. Et ben ton meilleur gardien, c'est Navas. Si par exemple, Donnarumma ne fait pas la même Champions League qu'a pu faire Courtois, et bien ça sera très compliqué de la gagner.
Bon, passons en revue. Alors, le gardien, ok. Le système, il y en a deux, on verra ce que ça donne. Est-ce que pour toi, le milieu de terrain tel qu'on l'a vu hier, là, est satisfaisant et est un niveau satisfaisant pour Ligue des Champions, là, Verratti, Vitinha, Ruiz?
Avec Soler, non, puisque Soler n'a pas joué.
Oui, Solaire, il joue parce que Neymar est suspendu.
Ouais, mais attends, tu peux avoir une autre solution aussi. C'était peut-être le jour rêvé pour faire de Kidiké un numéro 9 avec un retrait de lui, de Neymar, Messi et Mbappé.
Ça s'est bien passé d'ailleurs quand il est rentré Kidiké.
Voilà, donc mais si tu veux, déjà, quelle organisation, c'est difficile de te répondre. Ruiz, il se blesse. Alors que c'est quand même un joueur qui nous a montré de bonnes choses et qui est très, très intéressant. Et ensuite, ben, nous avons aussi, Gilbert, les commentaires. Alors que le Paris Saint-Germain, même si tout est loin d'être parfait, est toujours invaincu. Là où je veux en venir, c'est que on est déçu hier sans même être au courant du tirage au sort. Imaginons lundi que le Paris Saint-Germain tombe contre Tottenham, eh bien on préférera rencontrer Tottenham que si on avait terminé premier et rencontrer Liverpool. Donc ça, attendons, et puis mettons-nous aussi psychologiquement dans la peau de l'adversaire de Paris Saint-Germain par moment. Je trouve les supporters de Paris Saint-Germain, les passionnés de Paris Saint-Germain, un peu trop pessimiste et un peu trop inquiet. Quand on a Mbappé, Messi et Neymar, toutes les équipes et tous les clubs qui ont terminé à la première place sont inquiets de rencontrer ce second.
C'est vrai, mais c'est pas ce qui les inquiète, les supporters. C'est derrière, c'est surtout derrière. Ils se disent, ok, on peut marquer contre n'importe qui, mais on peut prendre des buts aussi contre n'importe qui. Si on les écoute un petit peu dans tous les shows, les supporters, c'est surtout ça, l'inquiétude. Et pour revenir à la question de Gilbert, le milieu de terrain, comme il est composé actuellement, c'est vrai que c'est un milieu de terrain joueur qui est plutôt plaisant avec Fabian Ruiz qui est rentré et on l'a vu, il est au niveau. Techniquement, il peut combiner, jouer avec Verratti et Vitinha, il n'y a pas de souci. Maintenant, compte tenu des petits problèmes qu'il y a en défense, parfois dans l'alignement, parfois dans la gestion de la profondeur, je me demande si ramener un milieu de terrain qui met un petit peu plus d'impact, qui récupère peut-être un petit peu plus de ballons, qui soulage aussi un petit peu plus la défense, et ce profil-là, on ne l'a pas forcément au Paris Saint-Germain, c'est Danilo Pereira. Je me demande si ça ne ferait pas du bien aussi à Paris.
Par exemple, chacun, dans les passionnés que nous sommes, allez, on se prend pour un entraîneur, je vais pendant une minute me prendre pour l'entraîneur de Paris Saint-Germain. Sur le match d'hier, tu me donnes l'effectif de Paris Saint-Germain, je t'explique que si on joue avec deux arrières centraux, pas de problème. Mais ensuite, je vais mettre deux lignes de quatre. C'est une organisation que connaît de A à Z Christophe Galtier. Ruiz, milieu, côté droit, devant Hakimi pour protéger Hakimi. Et en plus, il est gaucher. Tu lui donnes le ballon, il rentre vers l'intérieur, ça ouvre le couloir à Hakimi. De l'autre côté, Mbappé dans sa meilleure zone. Et tes deux attaquants, c'est Messi qui tourne autour, puisque c'est le terme à l'époque, d'équitiqué. Avec les deux frères jumeaux aussi à moi, donc Verratti et Vitinha, devant la défense.
Et Neymar, il joue où dans ce système?
Mais il y est pas. Donc laisse-moi faire l'équipe sans Neymar, il est suspendu.
Je parlais dans l'absolu.
Non, donc là, on parle sur
le match d'hier, d'accord.
Sur le match d'hier. Donc, Neymar, on ne va plus en parler, on attendra le prochain match. Et là, à ce moment-là, je vois aussi une autre façon de jouer au milieu. Parce que les amis, j'ai un certain âge et j'ai quand même eu le plaisir de voir des tas et des tas d'organisations. Mais revoir avec une équipe qui a un effectif de Champions League... Le losange au milieu avec le numéro 10 derrière les deux attaquants de l'époque d'il y a 40 ans et trois milieux devant. Excusez-moi que là, il veut Christophe nous faire un petit peu rajeunir et de se dire tiens, je vais te faire une blague là pour le prochain match à la Juve. Je joue en 4-3-1-2.
Après, Carlos Soler, elle a souffert aussi parce que c'est pas le poste là où il se sent le mieux en Espagne.
Tu me dis que le mec qui choisit ses joueurs, il met pas équitiqué et qui fait le choix de mettre Soler qui n'est pas vraiment
il
à.
Il voulait sans doute le récompenser par rapport.
Nous avons Christophe qui est en méforme sur le match d'hier. Ben ça suffira pour les fois où il est très bon. Et pour le moment, il est plus très
mais
bon
une nouvelle
que,
fois,
que
ça
moyen.
Suffit pour gagner donc bon.
En plus.
Non, par rapport aux performances qui étaient celles de Carlos Soler sur le dernier match, il voulait un petit peu le récompenser.
Les formules, excuse-moi, ça ne t'a pas permis de battre Benfica au moins une fois, ce qui peut-être t'aurait permis de terminer premier, si vraiment, et c'est très important
alors,
de terminer premier.
T'as un truc à rajouter
Juste un petit mot sur Carlos Soler, il se sent quand même mieux quand il est dans les trois du milieu, et on l'a vu, ça peut être un bon joueur, et c'est la position qu'il occupe aussi en Espagne, mais je suis d'accord avec coach, quand il joue dans les trois de devant, c'est pas son poste.
Pour conclure, finalement, la tonalité de ce podcast est la même que celle de l'after d'hier. Oui, le PSG a gagné, mais il y a tellement de choses à améliorer qu'on est encore loin du compte pour affirmer qu'ils sont des vrais candidats à la victoire en Ligue des Champions. J'ai bien résumé ?
Oui, complètement. Oui. Mais moi, je te rajouterai par un petit peu, je suis maniaque, c'est de te dire, tu te rends compte que toutes les choses qu'il y a à améliorer, que ce soit le gardien, que ce soit l'organisation, que ce soit la charnière centrale, que savoir s'il faut faire jouer Ramos côté droit ou côté gauche, Marquinhos côté droit ou côté gauche, les milieux, comment on les dispose. Eh bien, malgré tout, tu es invaincu. Tu t'imagines quand tu vas avoir les améliorations dans tout ce qui a amélioré.
Ils vont gagner 10-0 tous les matchs,
on va
s'emmerder.
ça va plus être même rigolo.
C'est pas faux ce que dit coach.
Merci Fabrice, merci Roland. Prochain podcast After Paris la semaine prochaine, on aura alors le nom de l'adversaire en 8e de finale de la Ligue des Champions. Allez, bonne journée à tous.
RMC After Paris.